Ézéchiel 40 à 48. On peut dire que l'histoire d'Israël, c'est l'histoire du temple. Ou autrement dit, l'histoire du temple de Dieu, c'est l'histoire d'Israël. Et c'est pour ça que je propose qu'on découpe toute l'histoire d'Israël selon les périodes du temple. Ainsi, on peut dire, la première période, c'était la période du tabernacle, le temple transportable d'Israël qui a été construit juste après l'exode de l'Égypte. Donc, c'est la période de 1606 jusqu'à 1012 avant Jésus-Christ, selon une chronologie absolument stricte qui prend tous les nombres de la Bible au sérieux. Et voilà, une deuxième époque, l'époque du premier temple sur le mont de Sion, à Jérusalem. N'est-ce pas, le fils de David, David avait conquis Jérusalem, et le fils de David, Salomon, a bâti le premier temple sur le sommet du mont de Sion, sur le rocher qui se trouve aujourd'hui dans le dôme du rocher. Voilà un seul temple pour le seul vrai Dieu. C'est la période de 1012 jusqu'à 586 avant Jésus-Christ, l'an de la destruction du premier temple par Nebuchadnezzar. Et voilà la troisième période, c'est l'exil de Babylone, une période sans temple. Les Juifs ont été amenés en captivité à Babylone puisqu'ils avaient abandonné le seul vrai Dieu et ainsi ils n'avaient plus besoin de ce signe, ce seul temple à Jérusalem comme signe du seul vrai Dieu. Et cela durait donc toute une époque jusqu'à l'an 538 avant Jésus-Christ où les Juifs ont pu retourner de l'exil pour reconstruire le temple. Alors, ce qui suit, c'est la période du deuxième temple, mais je distingue d'abord une période 1, le deuxième temple dans sa forme simple, 538 jusqu'à 19 avant Jésus-Christ. Les Juifs, à l'époque, avaient reconstruit le temple sur le carré de 500 sur 500 coudées, sur lequel se trouvait déjà le temple de Salomon. Ils ont refait le temple de cette façon-là à Jérusalem. Mais c'était un temple modeste, il n'avait plus l'argent de Salomon, mais au moins de nouveau un témoignage pour le seul vrai Dieu. Car selon Deutéronome 12, Israël avait seulement le droit d'avoir un temple en ce lieu choisi par l'Éternel. Mais ensuite nous avons la période B du deuxième temple, le deuxième temple dans son extension gigantesque, car vers 19 avant Jésus-Christ, les Juifs avaient la possibilité de rénover le temple, et cela par l'argent que Hérode, un Édomite, qui régnait selon la volonté des Romains sur les Juifs, et lui voulait se faire aimer par les Juifs, et c'est pour ça qu'il a donné énormément d'argent. Et les Juifs ont renouvelé le deuxième temple et agrandi à la double surface. Vous voyez ici la maquette, vous voyez toujours encore le carré de 500 sur 500 coudées, mais ils ont énormément agrandi vers le sud, aussi un peu vers l'ouest et particulièrement vers le nord. Et là, ils ont même rempli la vallée de Bethsaida pour agrandir la plateforme. Et voilà, c'était l'époque où le Messie souffrant est venu. L'époque où le Seigneur Jésus est venu pour la première fois. Et voilà, c'était la providence de Dieu que cet ennemi mortel du Messie, Hérode, a dû donner l'argent pour rendre majestueux le temple à l'époque où le Seigneur Jésus est arrivé. Donc, ce qui se trouvait là, Jérusalem, était même encore plus beau que le temple de Salomon. Plus beau et plus grand. Voilà, jusqu'à l'an 70, et depuis là, nous avons la sixième période de l'histoire d'Israël, de l'histoire du temple, la période de l'exil mondial sans temple, 70 après Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas déjà dans Daniel 9, 26, à la fin, il a été prophétisé, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Puisque la masse du peuple juif avait rejeté le Messie souffrant, il n'avait plus besoin du symbole du seul vrai Dieu à Jérusalem. Et c'est pour ça que Dieu a laissé détruire le temple par les Romains qui ont détruit et la ville et le lieu saint en l'an 70 après Jésus-Christ. Et voilà, Osée 3, verset 4, décrit cette longue période sans état. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince et sans sacrifice. Ensuite, les fils d'Israël retourneront. C'est-à-dire, ils retourneront après une longue période du monde entier pour retourner au pays des ancêtres. Et vous voyez, beaucoup de jours sans roi et sans prince. Donc, longtemps sans état, jusqu'à 1948. Et il est aussi dit, longtemps sans sacrifice. Donc, pas pour toujours. N'est-ce pas? Lorsque la Bible parle de l'éternité, par exemple, des peines éternelles, c'est éternel. Et quand la Bible dit beaucoup de jours, c'est pas éternel, c'est beaucoup de jours. N'est-ce pas? La Bible est tout simple. Il faut simplement voir ce qui est écrit. Donc, les sacrifices devraient revenir, mais seulement à la fin des temps, c'est-à-dire à l'époque où les fils d'Israël retourneront au pays des ancêtres. Et voilà, nous sommes dans cette époque où les fils d'Israël retournent. 3 millions sont déjà retournés depuis 1882 jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, nous avons une septième période. Et là, je l'appelle la période A, le troisième temple avant le retour de Christ en gloire. Donc, il y a beaucoup de passages qui parlent du fait que le troisième temple sera reconstruit, et cela avant le retour de Christ, avant la venue du Messie triomphant comme roi du monde. Par exemple, en Apocalypse 11, verset 1er, « Et il me fut donné un roseau semblable à une verge, et il me fut dit, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu. » Non pas le temple des hommes, le temple de Dieu. « Et l'autel et ceux qui y adorent. » Ici, vous voyez la maquette du troisième temple, c'est même indiqué là, « Third Temple ». Degenbait Hashlishi, en hébreu, c'est la façon juive ou comme on voudrait sur un carré de 500 sur 500 coudées reconstruire le temple dans l'avenir. Et ensuite, je distingue la période B du troisième temple. C'est-à-dire le troisième temple après le retour de Christ en gloire. La prophétie nous explique que l'antéchrist qui va venir, après l'enlèvement de l'Église, il va rendre impur le troisième temple. Mais jamais on lit qu'il sera détruit. Il le rendra impur, mais à la fin de la grande tribulation, le Seigneur Jésus viendra en gloire. Et voilà, on comprend pourquoi en Zacharie 6, verset 12, il est dit « Voici un homme dont le nom est Germe. » Et voilà, Nazareth veut dire « ville du germe ». Dont le nom est Germe. Et il germera de son propre lieu et il bâtira le temple de l'Éternel. Eh bien, le Seigneur Jésus reviendra et il agrandira le troisième temple selon les plans d'Ézéchiel 40 à 48. Et voilà la période B du troisième temple, le grand temple qui sera avec la troisième cour, un temple de 1,5 km sur 1,5 km. Et là, c'est le moment où le Messie vient comme le Messie glorieux. Vous voyez donc ce parallélisme. Le deuxième temple était d'abord petit et ensuite agrandi énormément. C'est là où le Messie souffrant est venu. Et plus tard, le troisième temple, d'abord dans une forme modeste et ensuite agrandi comme jamais auparavant. Et là, le Messie vient comme le Messie glorieux. Eh bien, juste quelques mots concernant le chemin du peuple juif aujourd'hui vers le troisième temple. N'est-ce pas, l'ONU a dit, en 1947, lorsque l'ONU a décidé qu'il sera possible de fonder un État juif, on a décidé, mais le mont du temple ne fera pas partie de l'État d'Israël. Mais lorsque les Arabes musulmans, les Arabes autour d'Israël ont décidé en 1967 de détruire complètement, comme un deuxième essai, de détruire complètement Israël. Alors là, l'armée d'Israël a conquis le mont du Temple, comme réponse. Voilà, le 5 à 10 juin 1967, la guerre des six jours, et c'était l'époque où le psaume 83, verset 4, était absolument réalité. Ils ont dit, venez et exterminons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Alors là, le mercredi, l'armée d'Israël a conquis le mont Sion. Et ainsi, le psaume prophétique, le psaume 126, est devenu réalité. Quand l'Éternel rétablit le sort de Sion, du mont du Temple, nous étions comme ceux qui songent. Alors notre bouche fut remplie de rire et notre langue de chants de joie. Alors on dit parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour ceux-ci. Après six jours, il y avait du repos sur trois fronts. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en avons été réjouis. Voilà, il y avait déjà un désir de 2000 ans pour construire le troisième temple. Depuis l'an 70, en principe, on prie dans le judaïsme trois fois par jour pour la reconstruction du temple. Mais depuis la conquête du mont du temple en 1967, on est entré dans une phase décisive de ce désir de 2000 ans. Ici, vous voyez Israël Ariel. C'était un soldat qui avait conquis le mont du temple en 1967. C'est un rabbin et il est devenu le fondateur de l'Institut du Troisième Temple à Jérusalem, qui prépare déjà maintenant les ustensiles pour le temple. Donc j'ai vu l'autel d'or pour l'encens déjà fait. Donc ce n'est pas une maquette, c'est fait. J'ai vu la table d'or pour la proposition des pains et beaucoup d'autres choses. J'ai eu en main des ustensiles du Troisième Temple. Ici, vous voyez le chandelier d'or, c'est la première fois depuis l'an 70 que Israël possède de nouveau un chandelier pour le temple, prêt pour être utilisé. Ici, vous voyez Salomon de Gershon, un soldat qui avait conquis le mont du temple en 1967, même qu'il était invalide, il était dans l'armée. Et voilà, c'est le fondateur des fidèles du mont du temple qui avait préparé déjà, il y a bien des années, la première pierre pour reconstruire le temple futur. Voilà, une pierre seulement traitée par des petits cailloux, sans outils de fer, pour la pierre qui devrait être posée comme la première sur l'esplanade du temple. Mais il est clair, si le peuple juif voudrait reconstruire le temple, cela suscite donc le monde islamique de plus d'1 milliard de personnes. Comme il est dit dans le psaume 2, verset 1er, Pourquoi s'agitent les nations et les peuples méditent-ils la vanité? Mais pourtant, la parole de Dieu nous explique que après l'enlèvement de l'Église, il y aura un grand réveil en Israël. Le résidu d'Israël reviendra à l'Éternel, au Messie. Ésaïe 10:21. Le résidu reviendra, le résidu de Jacob au Dieu fort. Ou Ésaïe 37:32. Car de Jérusalem sortira un résidu, et de la montagne de Sion ce qui est réchappé, la jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Et ce résidu, en lisant la parole de Dieu, avec tes yeux ouverts, ils vont réaliser, mais Jésus était quand même le Messie. Et voilà un plan prophétique. D'abord, l'enlèvement de l'Église, qui aura lieu, selon Apocalypse 3, verset 10, avant l'heure de l'épreuve qui viendra sur toute la terre par l'Antéchrist, le plus grand séducteur. Et voyez, là à la fin, le retour du Seigneur Jésus en gloire sur le mont des Oliviers. Mais il y a toute une époque là entre deux, de au moins 7 ans. Il s'agit de la 70e semaine de Daniel, qui est encore future. Et voilà, il y a un temps inconnu entre l'enlèvement et le début de la 70e semaine de Daniel, car cette semaine, donc cette période de une période de 7 ans, commencera par la conclusion d'un contrat entre la Nouvelle Europe, l'Empire romain des derniers jours, avec Israël sous l'Antéchrist. Eh bien, ce contrat ne doit pas forcément être conclu le jour de l'enlèvement. Donc il y a là un laps de temps inconnu. Ensuite, nous avons une première partie de ces 7 ans, et une deuxième partie, 3 ans et demi, et 3 ans et demi. Et la deuxième partie est appelée dans la Bible, en Matthieu 24, la grande tribulation, l'époque de la pire des guerres mondiales dans toute l'histoire humaine. Mais à la fin, le Seigneur va venir. Donc nous avons X après l'enlèvement, 3 ans et demi, et encore 3 ans et demi. Et qu'est-ce qui découpe la 70e semaine de Daniel? C'est le fait que l'Antéchrist rendra impur le troisième temple. Il se met dans la maison de l'Éternel en disant « Je suis Dieu » de Thessaloniciens 2, et il mettra aussi une idole dans la cour. Comme il est dit en Matthieu 24, 15 et 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Le terme « antichrist », ou il y a aussi des personnes qui disent « antéchrist » veut dire « celui qui s'oppose au Christ ». Christ, c'est grec pour hébreu « messie ». Mais antichrist peut aussi signifier en grec celui qui se met à la place du Christ. Anti veut dire contre ou à la place de. Donc l'antichrist est l'ennemi du Seigneur Jésus, mais aussi celui qui se présente pour Israël comme le vrai Messie. 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu que l'antichrist vient. C'est une personne qui va venir et qui se révèle après l'enlèvement selon 2 Thessaloniciens 2. Le Seigneur Jésus a dit autrefois au conducteur d'Israël, Jean 5, verset 43, « Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Celui qui rejette la vérité s'ouvre pour l'erreur. » C'est un principe général. Eh bien, le Seigneur Jésus explique dans son discours sur la montagne des Oliviers, Matthieu 24, 15, « Quand donc vous verrez l'idole abominable de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, donc en Daniel 9, Daniel 12, établie dans le lieu saint ou sur le lieu saint, que celui qui lit comprenne. » Et bien, selon Apocalypse 13, 14 à 15, l'Antéchrist, la deuxième bête qui sort de la terre, construira une idole qui sait parler. Et il mettra cette idole sur la place du temple. Et cela indiquera aux résidus d'Israël que la grande tribulation va commencer. C'est pour ça qu'ils doivent prendre la fuite pour sortir sur les montagnes. Et voilà, donc lorsqu'ils verront cette idole là placée, aujourd'hui on sait exactement que l'autel dans le temple était là placé juste à côté de ce petit dôme des chaînes, de la chaîne, ici à côté. Alors là, il placera cette idole, comme autrefois en Daniel 11, Antioche Épiphane. Il a aussi placé l'idole dans le deuxième temple, vers l'autel. Alors, les Juifs croyants vont prendre la fuite. Et le Seigneur continue en Matthieu 24, 16, « Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Car alors, verset 21, il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. » Eh bien, ils vont s'enfuir sur les montagnes de la Cisjordanie, et comme le dit le prophète Ésaïe, ils vont s'enfuir à Moab, ce qui est en Jordanie, pour être épargnés de l'attaque décisive du roi du Nord, qui, en Daniel, était toujours la Syrie. Mais la grande Syrie, qui englobait tout le territoire de Liban, Syrie, jusqu'au Pakistan. Et voilà, ce territoire, aujourd'hui, c'est un territoire musulman. Et cette coalition, elle va venir du Nord pour, comme Joël le dit, détruire tout le pays. Devant cette armée, le pays est comme le jardin d'Éden, et après, quand il a passé, le pays est brûlé. Il y a bien des passages qui parlent de cette attaque du Nord. Daniel 11, 45, Joël 2, Ésaïe 10, 22 et suivant, Ésaïe 28, 18 suivant, Psaume 83, Zacharie 12 à 14, Michée 5, etc. Et alors on peut même désigner un plan. Ils vont venir depuis le Nord et également depuis le Nord sur la Méditerranée. Ils vont conquérir Jérusalem. Le but, c'est, selon Psaume 83, de regagner le mont du Temple. Donc, c'est la vengeance islamique pour le troisième Temple. Mais Dieu va garder Israël dans l'avenir lorsqu'ils mettront le troisième Temple. Et seulement lorsque la masse acceptera l'idole de l'Antéchrist, Dieu va enlever la main protectrice pour permettre cette catastrophe. Et voilà, le roi du Nord va entrer encore en Égypte pour faire la conquête de l'Égypte et pour revenir après à Jérusalem. Et voilà, c'est le moment où le Seigneur Jésus va revenir comme juge du monde, sur le mont des Oliviers. Donc le Seigneur dit en Matthieu 24, 22, « Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. » Et Dieu a décidé, cette période sera une période de 1260 jours. Apocalypse 11, pas un jour de plus. Parce que autrement, l'humanité finirait par l'autodestruction. N'est-ce pas? Nulle chair, pas nulle âme, n'eût été sauvée. Nulle chair n'eût été sauvée. Et voilà, dans cette époque, le verset de Zacharie 12, verset 1er, sera dans le centre. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. » Donc une coupe pleine d'alcool qui prend l'intelligence. Ils savent seulement penser « Jérusalem !» La guerre sainte contre Jérusalem. Pour tous les peuples d'alentour, elle sera aussi contre Juda lors du siège contre Jérusalem. Mais ça sera une catastrophe pour Israël. Zacharie 13, verset 8. « Et il arrivera dans tout le pays, dit l'Éternel, que deux parties y seront retranchées. » et expireront. Mais un tiers y demeurera de reste, et le tiers je l'amènerai dans le feu, et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom, et moi je leur répondrai. Je dirai, c'est ici mon peuple. Et lui dira, l'Éternel est mon Dieu. N'est-ce pas, dans la première partie après l'enlèvement, les prémices vont se convertir du résidu. Ce sont les 144 000, comme ils sont appelés en Apocalypse 14. Et mais dans la grande tribulation, un tiers de la population va se tourner vers le Seigneur Jésus et le reconnaître comme Messie. Et voilà, le Seigneur, donc au point culminant de la tribulation, le Seigneur va venir sur le mont des Oliviers, que vous voyez ici depuis le mont du Temple. C'est d'ailleurs le sommet qui est ici indiqué, avec l'église russe de l'Ascension sur le sommet. Et Zacharie 14, 3 nous dit, « Et l'Éternel sortira et combattra contre ses nations. » Verset 4, « Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem vers l'Orient. » N'est-ce pas, c'est merveilleux de voir, l'Éternel vient, mais ses pieds se tiendront sur la montagne des Oliviers. Est-ce que l'Éternel a des pieds? Oui, parce que l'Éternel, le Fils de Dieu, 2000 ans avant, il est devenu un vrai homme. Et il va revenir comme vrai homme. Zacharie 12, verset 10 nous dit, « Et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé, et se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique, et il y aura de l'amertume pour lui comme on a de l'amertume pour un premier-né. » Romains 11 dit, « Et ainsi sera sauvé tout Israël. » Mais Romains 9 nous dit, « Seulement un résidu sera sauvé. » Oui, mais puisque le résidu survivra, alors il sera finalement tout Israël. Et ils vont regarder sur le Seigneur Jésus. Ils vont voir donc les traces de son sacrifice il y a 2000 ans. Et maintenant, nous arrivons à la vision d'Ézéchiel pour le nouveau temple. Ézéchiel 40, verset 1er. En la 25e année de notre transportation, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, en la 14e année, après que la ville eut été frappée, n'est-ce pas, Ézéchiel vivait à l'époque où Nebuchadnezzar avait détruit la ville et le temple. En ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il m'amena là. Dans les visions de Dieu, il m'amena au pays d'Israël et me posa sur une très haute montagne et sur elle, il y avait comme une ville bâtie du côté du midi. Donc dans la vision, depuis l'Irak actuel, depuis la Babylonie, Ézéchiel vient pour voir le troisième temple au millénium. Verset 3, « Et il m'amena là, et voici un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. » Voilà, c'est un ange qui sert comme guide à Jérusalem. Et il avait dans sa main un cordeau de lin et une canne à mesurer. Il se tenait dans la porte. Et l'homme me dit, « Fils d'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles et applique ton cœur à tout ce que je te fais voir, car c'est afin de te le faire voir que tu as été amené ici. Déclare à la maison d'Israël tout ce que tu vois. » Donc, ce soir, il est important de faire comme Ézéchiel. Regardez, je vais montrer des photos d'une maquette. Écoutez la parole de Dieu. Mais pas seulement pour savoir plus, mais appliquer le cœur. Car nous allons apprendre des choses précieuses du trésor de la parole de Dieu, appliquer le cœur, et enfin, il faut dire aux autres, déclarer. Alors, il est arrivé, Ézéchiel, vers la porte de l'Est, ici. C'est là où le guide l'attendait. Et ici sur le plan que vous retrouverez dans sont les Écritures, Ézéchiel, vous voyez donc tout le chemin, tout le trajet que Ézéchiel avait fait pour voir le temple. Et si on utilise ce plan-là, on comprend beaucoup mieux qu'est-ce qui est décrit dans ces chapitres 40, 41, 42, parce que là, on voit quelle partie du temple il visite avec le conducteur céleste. Mais avant de continuer, il faut que j'explique un peu le symbolisme du temple en général. N'est-ce pas? Pour Dieu, le temple est une unité. S'il s'agit du tabernacle, du premier temple, deuxième temple, troisième temple, c'est toujours donc l'expression de la pensée de Dieu sur sa maison, le temple. Eh bien, qu'est-ce que signifie le temple de Dieu dans la Bible? Il parle de la personne du Seigneur Jésus, du Messie. En Jean 2, lorsque le Seigneur était au temple, il a dit « Détruisez ce temple ». Mais là, il ne parlait pas du deuxième temple à Jérusalem, mais il parlait du temple de son corps. Car le Dieu trinitaire était présent en la personne du Seigneur Jésus d'une façon extraordinaire ici sur terre. Donc, il parlait du temple de son corps. Mais, deuxièmement, il faut voir le temple céleste. En Révélation 11, 19, nous lisons « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » Eh bien, nous apprenons que dans le ciel, il y a un vrai temple. Et voilà, le temple sur la terre était en quelque sorte seulement un reflet, une copie de cet original céleste. Et ensuite, troisième aspect, l'Église de Christ est appelée en 1 Corinthiens 3, verset 16, le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 4. Le croyant individuel. En 1 Corinthiens 6, verset 19, Paul parle du croyant individuellement. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu? Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été acheté à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Donc, le temple parle aussi du croyant. Par ce schéma qui se présente devant nous, on peut comprendre mieux de quoi il s'agit. N'est-ce pas? Au ciel, nous avons l'archétype, le temple céleste. Sur la terre, nous avons la copie, le temple terrestre, tabernacle, premier temple, deuxième temple, troisième temple. Et il faut voir, et l'archétype et la copie ont une signification spirituelle. Et la signification, c'est le Messie, l'Église, le croyant individuel. Donc il faut étudier la signification du temple futur qui sera un vrai temple sur la terre, à Jérusalem. Il faut voir la signification spirituelle déjà pour nous aujourd'hui. Ici, vous avez une vue générale des cours intérieures. Il y a d'abord les deux cours intérieures. Et voilà, quand on suit exactement les mesures qui sont données en Ézéchiel, on réalise que ces deux cours sont placés sur un carré de 500 sur 500 coudées. Ce n'est pas clairement dit dans un verset, mais quand on prend toutes les mesures, c'est exactement comme le temple de Salomon qui était placé sur un tel carré. Et voilà, ici, vous avez le temple proprement dit. Et dans Ézéchiel, ce qui est particulier, ce sont ces constructions avec deux tours, vous voyez? Ensuite, on a la cour intérieure qui reflète en quelque sorte la cour du tabernacle. C'est pour ça que les rabbins ont toujours appelé la cour intérieure le camp de la Shekhina, le camp où il y avait la nuée glorieuse, déjà sur le tabernacle, avec l'autel. Et là, vous voyez trois portiques vers la cour intérieure. Une construction particulière avec ces deux tours, vous voyez. Ensuite, on voit les demeures des sacrifices sur trois étages décalés. C'est assez moderne, n'est-ce pas? Et là, vers le sud et vers le nord. Et à l'ouest, il y a le bâtiment de l'ouest devant la place séparée. Et voilà, une deuxième cour qui était déjà appelée autrefois au deuxième temple par les rabbins la cour des femmes. Et cela avec raison, parce que déjà dans l'Exode, nous lisons que des femmes pieuses se sont rassemblées à l'entrée du tabernacle, c'est-à-dire de cette cour de tabernacle. Donc, comme dans une deuxième cour pour prier, la cour des femmes, avec ces trois portiques, c'est le même design. Et dans les coins, vous avez quatre cuisines pour le peuple où on va préparer les sacrifices, la viande des sacrifices de prospérité pour être mangée, pour avoir communion avec Dieu. Et voilà, il y a en plus les cellules pour le peuple sur le pavé. Ici, on voit très bien ce que c'est le pavé. Donc c'est une partie de la deuxième cour qui est bâtie d'une façon particulière. Voilà les cellules pour le peuple. C'est là où ils vont manger la viande des sacrifices de prospérité. Et si on fait les diagonales de ce carré de 500 sur 500 coudées, les diagonales se croisent sur l'autel. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Christ et son sacrifice se trouvent au centre. Il s'agit ici du plan de Dieu pour l'Église, dans son application, pour le croyant individuel. Alors, on peut se demander, dans l'assemblée locale où je suis, est-ce que vraiment Christ et son sacrifice se trouvent absolument au centre? Dans ma vie personnelle, est-ce que c'est vraiment que le Seigneur Jésus est absolument le centre? Autrement, c'est une sorte de caricature du plan de Dieu, n'est-ce pas? C'est comme en Apocalypse 5, verset 6, où Jean, dans le ciel, voit l'agneau au milieu du trône, dans le centre. Eh bien, le tabernacle portait déjà cette signification. N'est-ce pas, la cour du tabernacle est composé de deux carrés de 50 sur 50 coudées, n'est-ce pas? Ici, vous voyez la première partie, et là, au centre, l'autel. Et la deuxième partie, on a la maison, la tente, et si on fait là, de nouveau, les diagonales, ils se croisent dans l'Arche de l'Alliance, où le souverain sacrificateur avait placé le sang du sacrifice au Yom Kippour, au jour du grand pardon. Et déjà, l'autel était un autel de 5 sur 5 coudées. Voilà. On retrouve cette pensée que Christ, son œuvre, est au centre. Alors maintenant, nous continuons en Ézéchiel 40-45, et il me dit: je reviens donc aux sept portiques que nous avons vus. Il y a trois portiques pour la première cour, trois pour la deuxième, mais le même design est utilisé pour le temple proprement dit. Donc en quelque sorte, il y a sept portiques où on peut entrer, aussi dans le temple proprement dit. Et donc ce temple est marqué par la possibilité de pouvoir entrer. Eh bien, cela montre ce que est la pensée de Dieu. En Matthieu 11, 28, le Seigneur Jésus dit: venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés. Ce temple nous parle d'un Dieu qui veut inviter. 1 Timothée 2, verset 4, nous explique que Dieu veut, le Dieu sauveur veut que tous les hommes soient sauvés. Et 2 Pierre 3, verset 9, le répète avec des autres mots. Et voilà, c'est cette portique qui nous invite, sont en quelque sorte des forteresses. Eh bien, ça nous fait penser à Proverbe 18, verset 10, « Le nom de l'Éternel est une forte tour. Le juste y court et s'y trouve en une haute retraite. » C'est beau de voir ça. Eh bien, lorsqu'on continue à lire en Ézéchiel, on arrive à Ézéchiel 42, 15 à 20. Et voilà, ici est décrit encore une troisième cour, mais beaucoup plus grand, plus 500 sur 500 coudées, mais 500 sur 500 cannes. Et quand on calcule cela, en mètres, ça fait 1575 sur 1575 mètres. Ça fait donc un temple en tout, avec 2 480 625 mètres carrés. Et déjà, le deuxième temple, agrandi à l'époque du Seigneur, était un des plus grands édifices du monde. Mais ici, il s'agit 17 fois le deuxième temple, avec ses 144 000 mètres carrés. Eh bien, déjà, au deuxième temple, la cour extérieure était appelée la cour des nations. On avait agrandi le temple pour inviter tous ces païens à l'époque romaine qui avaient assez de ces dieux stupides. Des Grecs et des Romains qui vivaient dans l'immoralité, beaucoup avaient un désir de connaître le seul vrai Dieu que les Juifs connaissaient. Eh bien, c'était pour avoir de la place pour eux. Mais au troisième temple, au millénium, il y aura une cour de plus de 1,5 km sur 1,5 km. Il faut de la place, parce qu'ils vont venir du monde entier à Jérusalem. Eh bien, on peut appliquer ça à l'Église. L'Église a reçu donc le commandement du Seigneur, Matthieu 28, 19, « Faites disciples toutes les nations ». Et vous voyez, lorsqu'on voit ce plan d'Ézéchiel, n'est-ce pas, ici c'est le carré de 500 sur 500 coudées avec le temple proprement dit, mais tout est caractérisé par cette troisième cour, la cour des païens. Alors on peut se demander, est-ce que nous sommes aussi caractérisés par ce désir d'atteindre ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile? Et on peut aussi appliquer sur la vie personnelle, est-ce que dans ma vie on voit aussi une telle troisième cour pour faire venir ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus? N'est-ce pas, en Isaïe 49, 6, l'Éternel dit au Seigneur Jésus, au Messie, « Tu seras ma lumière jusqu'au bout de la terre. » Et voilà une découverte que j'ai faite. J'ai calculé la distance entre le rocher, qui est le sommet du mont Sion, où sera de nouveau, comme Ézéchiel le dit expressément, le lieu du temple proprement dit, le lieu très saint. Et j'ai calculé la distance jusqu'au rocher à Jérusalem de Golgotha, du calvaire. Et alors j'ai vu, au millénium, ce rocher va tomber dans la cour extérieure des païens pour être le symbole jusqu'à la fin du monde. Ou un témoignage jusqu'à la fin du monde que la seule offrande est déjà accomplie par le Seigneur Jésus. Et tous ces sacrifices qui vont être apportés à Dieu pendant le millénium sont seulement un symbole pour témoigner de cela. N'est-ce pas? Pendant le temps de l'Église jusqu'à l'enlèvement, nous avons comme mémorial la scène. Vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Mais après l'enlèvement, il n'y aura plus ça. Eh bien, il y aura les sacrifices au troisième temple et pendant le millénium, mais seulement comme mémorial du sacrifice qui compte pour l'éternité du Seigneur Jésus.